des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Radio. Le commentaire de...
Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
Hey, salut Richard.
Hey Mario, t'as vu ça? Un influenceur ukrainien qui doutait de l'existence de la COVID est mort à 33 ans des suites de la COVID.
Ouais, j'ai vu ça.
Écoute, est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit sourire quand on lit ça?
Non.
Oui.
Mais il y en a plusieurs quand même, là. Dans les manifestations, tu sais, on ne fait pas toute la nouvelle, mais dans les manifestations aux États-Unis, on est contre le confinement. Je ne peux pas tous décéder nécessairement, mais des gens qui ont fait de l'hospitalisation, qui ont fait des soins intensifs, il y en a. J'ai vu passer cette nouvelle-là plusieurs fois. Mmh. La plupart sont convertis après. Là, par exemple, là, ils croient plus à la COVID à la suite.
J'imagine après, oui.
T'as vu d'ailleurs que pour ce qui est de gérer la COVID aux États-Unis, on peut pas se fier au Dr Fauci qui a pas un bon lancer au baseball. Là. Trump, lui, quand il a fait le lancer inaugural, il a lancé une prise.
Oui,
mais Dr Fauci a fait un lancer inaugural au début d'un match, il a lancé tout croche.
Écoute, juste comme on pense qu'il peut pas aller plus bas, il descend toujours plus bas, Donald Trump, de se mettre à dos comme ça, d'insulter les gens qui sont proches de lui, là. Après ça, il va revenir, il va dire non, c'est un bon gars, puis après ça, il va l'insulter encore et tout ça. Y a-tu quelqu'un autour de lui qui a pas insulté? Une fois.
Non, il en reste moins.
Je pense pas. Il reste pas beaucoup.
Bon, autre attentat en France. Évidemment, là, ça crée une mobilisation assez impressionnante. On a l'impression que vraiment, on a touché quelque chose d'ultra sensible. Un enseignant, la liberté d'expression. Des gens mis en garde à vue aussi. C'est ça qui est impressionnant, le nombre de personnes qu'on met en garde à vue qui pourraient être arrêtées.
Et là, j'espère qu'on va aller au-delà là, de mettre le drapeau français sur nos médias sociaux, d'allumer des bougies en France, de faire de beaux discours, etc. Il est temps maintenant de passer à l'action. Et les islamistes, ça fait longtemps, ont déclaré la guerre à la France. Et il faut déclarer la guerre à ces gens-là. Et moi, j'ai trouvé Emmanuel Macron très, très mou quand il a dit « ils ne passeront pas », en parlant des islamistes, « ils ne passeront pas ». Je m'excuse, mais ça fait très longtemps qu'ils sont passés, là. Ils sont là en France et ils sèment la terreur dans certains quartiers. Il y a des zones de non-droit en France où la police n'ose même plus aller parce que c'est un guet-apens. Il y a des quartiers où les femmes ne peuvent plus se promener en jupe, où les femmes ne peuvent plus entrer dans les cafés. Ça fait longtemps que les enseignants aussi se demandent comment on peut même pas parler de l'Holocauste, sinon ça crée tout le temps des malaises dans la classe. Il y a des parents qui débarquent. Tu peux pas parler du conflit israélo-palestinien. Ça fait très longtemps. Et là, Emmanuel Macron qui dit ils ne passeront pas. Je suis désolé. Il y a des islamistes. Moi, j'ai lu des reportages. Il y en a dans les écoles. Il y en a qui travaillent pour des compagnies qui s'occupent de la sécurité dans les aéroports. Il y en a qui travaillent dans des postes de police. Des policiers qui sont radicalisés, qui travaillent comme police, je veux dire, ils sont en train d'infiltrer la société française. Et l'autre, Emmanuel Macron, il dit ils ne passeront pas. Écoute, Mathieu Bocoté a eu une très bonne image ce matin à mon émission. Il dit c'est comme, t'es en 1943, puis tu dis les nazis ne passeront pas alors qu'ils sont assis à une terrasse en train de boire du vin à Paris, là, tu sais. C'est comme ils sont là depuis longtemps. Il va falloir à un moment donné, là, je sais pas comment ils vont faire, mais tu sais, les imams qui tiennent des propos radicaux dans les mosquées, il va falloir les sacrer.
Mais là aujourd'hui, on a lancé une espèce d'offensive quand même. Là, tous ceux qui de près ou de loin ont montré de la sympathie par rapport à la décapitation du prof, là, on semble vouloir prendre ça au sérieux.
Ben là, c'est, mais mettons, tu sais, c'est fort. Mais tu sais, c'est 3 semaines après qu'un gars, un Pakistanais, blessé 2 personnes avec un hachoir dans la rue. Il les a blessés, mais il aurait pu les tuer près des anciens locaux de Charlie Hebdo, excuse-moi. Donc, près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Donc, écoute, il y en a beaucoup d'événements comme ça. Là, je peux. Tu sais, 47 ans, le gars, c'est un professeur. Et d'ailleurs, écoute, il a parlé de liberté d'expression dans son cours. C'est un prof de géo et d'histoire. Il a montré certaines caricatures. Il a demandé s'il y a des étudiants musulmans qui sont mal à l'aise. Vous pouvez sortir et aller dans le corridor. Là, il y en a qui sont sortis. Et là, les parents de ces étudiants-là ont dit, c'est écœurant, c'est de l'islamophobie. Vous avez demandé à mon enfant de sortir de la classe. Ça n'a pas de sens. Ils se sont plaints à la direction de l'école. Il y en a un père qui s'est pointé là avec un militant islamiste, là, vraiment radical. Ils ont commencé à gueuler la direction de l'école. Le pauvre professeur a été pris à partie sur les médias sociaux où on commençait à le pointer du doigt en traitant de raciste. C'est comme si, tu sais, on le désignait comme cible. Tu mais désignes Richard, cette personne-là comme cible. On lui a mis un X dans le front. Ouais. Là.
Mais ça va marcher. Dans le sens que...
Ben, tout le monde va avoir peur.
Ben oui. Là, on fait une mobilisation. Tout le monde dit non, on ne peut pas avoir peur. Mais les enseignants, là... Ils enseigneront plus n'importe quoi. Ça va marcher.
Ben non. Ben ça va marcher, c'est sûr. Ils ont peur. Écoute, la jeune fille, le Mila, sur les réseaux sociaux, elle a insulté l'islam dans des propos très, très vulgaires. Là. Mais tu sais, elle peut pas aller à l'école. Maintenant, il n'y a plus une école qui va la recevoir parce que, bon, elle représente un danger pour les autres élèves. Elle vit chez elle, terrée. Elle a peur sous les menaces de mort. Et c'est ça, maintenant, le nouveau truc des islamistes, c'est pas de monter des terroristes, c'est pas de monter des grosses opérations. La 9/11, où ça prend des années à monter et tu risques de te faire pincer. Maintenant, ils font dans l'artisanal. Tu sors avec un couteau, t'en poignardes deux, trois, comme ça, ou alors t'en décapites un dans la rue, tu sors avec un hachoir, et là, tu crées vraiment une peur en disant, ben, ça peut être partout, là. À Nice, là, il y a quelqu'un qui avait un gros camion réfrigéré, foncé sur une centaine de personnes. C'est ça, maintenant, leur affaire. Écoute, c'est vraiment extrêmement fréquent. Et en France, ils ont perdu le contrôle. Et ici, on a des leçons à tirer de ça. Il faut, à un moment donné, il faut pas aller aussi loin qu'en France. En France, ils ont mis le doigt dans le tordeur et tout le corps y est passé. À un moment donné, il va falloir défendre nos valeurs avec fermeté, avec rigueur. Je voyais, tu sais, dans notre journal, le Journal de Montréal aujourd'hui, il y avait une chroniqueuse, une jeune chroniqueuse qui dit « c'est épouvantable dans les écoles, on interdit aux filles de porter des jupes courtes, on leur donne un code vestimentaire, on les oblige à porter des jupes longues, ça n'a pas de sens ». Mais ça aurait été le fun qu'elle prenne sa chronique pour dire « c'est écœurant qu'il y a des parents qui imposent le voile aux petites filles ». Il me semble que c'est pire. Imposer le voile, t'empêcher de te promener les cheveux au vent. Mais elle l'aurait jamais fait. Pourquoi? Ben, parce que ça, c'est islamophobe. Parce que ça, c'est raciste. Fait que, tu sais, à un moment donné, on critique pas. Tu sais, je m'excuse, mais il y a des imams radicaux qui ont eu des propos inacceptables dans des mosquées à Montréal. On acceptait ça. Parce qu'on a peur de passer pour raciste, puis tout ça, puis on défend pas nos valeurs. À un moment donné, il va falloir se tenir debout comme société. Et il y a des accommodements où tu dis, c'est impossible de les faire. Souviens-toi, la petite fille qui était dans une école à Montréal, et elle était musulmane, et ses parents ne voulaient pas qu'elle écoute de la musique, parce que la musique, c'est péché. Dans ce temps-là, la prof, elle lui mettait, la petite fille, elle lui mettait des écouteurs pendant les cours de musique, pour pas que la petite fille entende la musique. C'est inacceptable qu'on accepte ça dans une école.
Mais ça n'a jamais été dénoncé. Fou.
Ça n'a jamais été dénoncé parce qu'on a peur de passer pour raciste et islamophobe. J'en sais quelque chose. Écoute, là, l'enquête à Radio-Canada m'ont vraiment mis un X sur le front, là, m'ont désigné là en disant j'étais l'ennemi des musulmans, j'étais un islamophobe, tout ça parce que je critique l'islam radical. Là, et j'ai le droit, même j'ai le devoir de critiquer l'islam radical. Et ils m'ont traité comme si j'étais le dernier des racistes à enquête. Écoute, ben ça, il faudrait qu'il y ait un texte d'Isabelle Haché. Il faudrait qu'il y ait un texte d'Isabelle Haché dans la presse.
Pour les réveiller,
Les réveiller et les dire, hey, c'est vrai. Voyons, l'islam radical, c'est pas bon.
Justin Trudeau qui veut vraiment pas qu'on rouvre l'histoire We Charity.
Ils font des filibusters, les libéraux. Alors, il y a deux comités.
Non, mais là, il est prêt à tout. Il est même prêt à vote de confiance là-dessus. Là,
ben oui. Non, mais l'affaire des filibusters, toi, dans ta carrière politique active, est-ce que t'as été témoin de ça?
J'ai fait ça.
Un filibuster?
Ben oui, certainement.
Ou t'as parlé pendant combien de temps?
Oh, ben j'ai pas de limite. C'est des blocs de 20 minutes, là. Je sais pas combien j'en ai fait, mais je veux dire, je pourrais t'en faire
d'autres. Pourquoi c'est accepté, ça? C'est un peu ridicule,
c'est le seul outil de l'opposition. Le seul outil de l'opposition.
Tu parles, mais tu peux faire n'importe quoi, là. Tu peux dire quoi, le bottin téléphonique?
Non, pas à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, il y a la règle de la pertinence.
Écoute, parce que là,
c'est interprété largement la règle de la pertinence, mais il faut que tu parles du sujet.
Parce que là, les libéraux fédéraux, écoute, ils ont parlé de micro-agressions contre la société, contre la communauté asiatique, ils ont parlé de racisme, blablabla. Ça n'avait plus rien à voir avec vraiment We Charity, là. Ils ont pris le micro, ils ont parlé, et ils disent, ils disent, écoute, on n'a pas le temps de parler de ça, c'est pas important parce que c'est la COVID qui est importante. La COVID, ça, il faut, mais on peut marcher, marcher de la gomme en même temps. Je m'excuse, c'est un scandale. Là, on a appris là, que l'épouse de Justin Trudeau avait été payée 24 000 $ pour huit conférences à We Charity. Elle a été payée 24 000 $. On sait, Bill Morneau se fait payer des voyages, etc. La mère de Justin, son frère, c'est un scandale énorme et eux autres veulent rien savoir de ça, ne veulent pas en parler sous prétexte qu'il y a la COVID. Écoute,
je pense pas pour ça qu'ils veulent pas en parler.
Oui. Et d'ailleurs, en parlant de Justin, Michel Gérard écrivait ce matin que les deux premiers mois de la pandémie, tu sais, avec la PCU, le gouvernement Trudeau a donné 33 milliards de plus que ce que les gens avaient perdu. Tu sais, mettons, l'ensemble des Canadiens avaient perdu, l'ensemble des travailleurs canadiens avaient perdu, je sais pas, moi, mettons, 20 milliards de dollars en paye. Mais lui, il a donné 53 milliards. Non, 33
ça fait
de plus que les gens avaient perdu.
Ça fait quelques études qui vont dans ce sens-là que les compensations ont été plus que ce que les gens avaient vraiment perdu. Et il nous reste une minute pour parler de ce journaliste, quand même réputé, qui a perdu son emploi.
Oui, c'est ça, il est suspendu.
Il est suspendu, ouais.
qui écrit des livres très importants sur sur Trump, sur les présidents, sur O.J. Simpson. Il a écrit le livre sur l'affaire O.J. Simpson. C'est un gars du New Yorker, donc très, très réputé, respecté. Et il a fait une conférence Zoom avec une station de radio et il s'est montré le winner. Il s'est montré le zizi sur Zoom, mais il dit qu'il savait pas que la caméra était ouverte.
Mais ça, c'est pas une bonne idée.
Il savait pas que la caméra était ouverte. Mais même si la caméra est pas ouverte, qu'est-ce qu'il faisait à se montrer la didine devant son écran d'ordinateur? J'ai dit, je savais pas que la caméra était ouverte. OK, on sait. Mais moi, ça me fascine à chaque fois des gens là qui ont tout à risquer, là, qui sont prêts à risquer leur carrière politique, leur nom, leur réputation, leur famille, tout ça pour des affaires de même. Tu te souviens, le gars, là, justement, qui s'appelait Wiener, le gars avait un nom vraiment prédestiné, puisque Wiener, ça veut dire saucisse aux États-Unis,
oui,
mais
non,
qui s'était présenté pour la, je pense, c'était pour la mairie de New York qui s'était présenté.
C'était un sénateur, je pense, de l'État de New York, de mémoire.
C'est ça, mais en tout cas, écoute, il s'était présenté en pleine campagne, il s'était montré le winner sur vidéo, et c'est, faut-tu que t'aies la bisoune en feu pour un moment donné, tout accepter là, de tout risquer pour un 5 secondes ou un 6 secondes de trip.
Pour 5 secondes de gloire, ça veut pas dire que la photo te donne autant de gloire. Hey, merci beaucoup, Richard.
Salut, à demain.
Salut.
Bye.